Papa Pien et tous les autres aussi, bonjour. Ma journée a très bien commencé puisque je suis tombé sur Brad Pitt en me réveillant. Et non, ne rêvez pas Charline, Brad Pitt n'était pas dans mon lit, mais à la télévision, sur CNN, en pleine promo pour le remarquable Ad Astra, dont nous défendions les couleurs ici même la semaine dernière avec James Cray. Brad Pitt est donc redescendu sur Terre entre deux orbites, à moins que ce ne soit le contraire, le temps d'évoquer la mémoire de cette crevure d'Harvey Weinstein. Les flammes de l'enfer puissent-elles cramer ses roustons à ce fils de chacal puant? Il y a longtemps, lorsque Brad avait pour compagne Gwyneth Paltrow, qui tournait alors Emma, tiens, comme ma fille, produit par cette mère du Maine de Weinstein, celui-ci eut un geste déplacé vis-à-vis de Gwyneth. Suite à quoi Brad, qui n'était alors qu'un jeune acteur en devenir, déboula dans le bureau du salopard pour lui dire simplement « Tu la touches encore une fois, je te tue ». Le monde irait mieux s'il y avait plus de Brad Pitt. Oui, courez voir Ad Astra. Et sur le chemin du cinéma, vous pourrez toujours écouter le nouvel album de Divine Comedy. Le 12e, une petite pépite de pop britonne qui, comme tous les bons disques, vous console et vous fait penser à autre chose, même si ce n'est que pour quelques instants. Mais c'est toujours ça de prix qu'à tous les Weinstein encore en circulation. Neil Hannon, leader charismatique de la Divine Comédie, est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Neil Hannon.
Ah, good afternoon Antoine.
Bonjour Antoine. Right.
Bienvenue dans notre studio. Oubliez quelques instants tous les Weinstein en circulation, c'est un bon argument de vente, non ?
Yes, I feel there's something in the
air. Tout à fait,
air,
je sentais quelque chose, peut-être un non-dit, une dent peut-être contre ce monsieur.
Un non-dit, vous le dire vite. Alors à mes côtés, Charline Roux, comme disent les Anglais. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine de Caunes.
Au menu également de Pop Pop Pop, on parlera de rock et de glam avec Glam Rock, le doc diffusé ce soir sur Arte. Christophe Comte, son auteur et réalisateur, nous rejoindra tout à l'heure. Mais avant ça, Neil Hannon, ici il existe une question encore plus stridente que d'entendre des chèvres qui sont dans votre jardin, Neil Hannon, lorsqu'elles vous disent bonjour. Et cette question c'est... Pour vous, Neil Hannon, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses nihilisées, anonisantes, divinesques et même comédiennes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Charlotte Gainsbourg, avec qui vous avez collaboré.
Pour moi, c'est ce que j'écoutais dans la nurserie rue de Verneuil. C'est ça, la pop culture. C'est ce que j'écoutais, c'est Blondie, c'est tous ses débuts et... Et c'est resté. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un nouveau regard sur cette culture très abordable, en fait. Mmh. J'étais réticente, j'ai montré les fers au départ, et en fait, ça m'a pris aussi.
Et vous, Neil Hannon, la pop culture, c'est ce que vous écoutiez aussi dans votre nursery?
This is pop culture.
Je vais vous faire passer ça.
That's all you need to know.
Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Toute la réponse tient en ces quelques notes. Pour moi, c'est ça.
It's great fun.
C'est génial, c'est marrant.
Il suffit d'avoir un petit téléphone portable pour pouvoir jouer la musique. Très bien. Merci infiniment, Neil Hannon.
Smartphone. Thank you so much.
Yeah. Merci.
No problem.
Alors, la pop, la culture et la pop culture, nous allons en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après James Bond, cet extrait de Free, le dernier album d'Iggy.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. M&M's, sweet to the taste,
James Bond, ce n'est pas signé James Bond, mais Iggy. Et c'est à retrouver sur l'album Free, car Iggy a tout compris. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Donc, nous sommes aujourd'hui avec un invité qui aime regarder des films d'auteur en buvant du sherry, cette boisson appréciée principalement par les Britanniques. Mais qui est cet invité aux pratiques douteuses? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, Neil, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est donc signé Charline. Pendant ce temps-là, moi je me jette un petit sherry.
Eh ben, on se prive de rien. Aujourd'hui, un invité qui, contrairement à ce que l'on pense de lui, affirme, je cite, « Je ne suis pas un dandy, je suis un type en pyjama qui regarde du foot en mangeant de la pizza et qui ramasse des crottes de chien. » Un autoportrait trouvé dans un article de Libé. Alors certes, la formule est percutante, comme l'est sans doute l'humour irlandais, pas étonnant donc de le retrouver à la signature du générique de l'une des plus hilarantes séries de chez lui, Father Ted, une histoire de prêtre que l'on peut résumer par la phrase fétiche de l'un des ecclésiastiques « Drink, feck, horse, girls », soit « boire, baiser, cul, fille ». Mais pour en revenir à votre autoportrait, et ce type en pyjama, alors c'est pas improbable hein, pour un ambassadeur de la chamber pop, il est l'auteur de 12 albums de cette pop orchestrale. Pour ce qui est du foot, bon ben nul n'est parfait hein, mon cher Neil. Quant à la réputation de l'appellation dandy, quand on revendique l'influence de Burt Bacharach, de Jacques Brel, de Kate Bush ou encore de David Bowie, j'ai mes doutes. Si j'ajoute des collabs aussi multiples et variés que Yann Tiersen, Charlotte Gainsbourg ou encore la mise en son du Doctor Who, pas dandy, pas dandy, je m'outre un peu et m'inscris en faux. Ça, cette phrase, c'est juste pour le plaisir de l'entendre traduire par Robert, parce que ça n'a aucun sens.
Merci.
Et je vous le dis tout de go, cet autoportrait me semble être une divine comédie. Vous l'avez?
Vous l'avez, oui,
non
bien sûr,
ouais.
Je l'ai, une divine comédie. Vous l'avez aussi, Neil?
Non. Pardon.
Désolé.
Bien, Neil Hannon, mettez votre pyjama et prenez une part de pizza, car nous allons parler de pop culture dans la séquence qui suit. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté non pas sur un roman, mais sur un essai, Sapiens, de Yuval Noah Harari, sous-titré « Une brève histoire de l'humanité ». Charline, soyez encore plus brève, résumez-nous cette histoire, pas si brève que ça.
Trajectoire de l'humanité de l'âge de pierre au XXIe siècle. Ça va, c'est assez bref?
Oui, c'est bon, ça ira. Neil Hannon, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Homo sapiens has kept hidden an even more disturbing secret. Not only do we possess an abundance of uncivilized cousins, once upon a time we had quite a few brothers and sisters as well. We are used to thinking about ourselves as the only humans. Because for the last 10,000 years, our species has indeed been the only human species around. Yet the real meaning of the word human is an animal belonging to the genus Homo. And there used to be many other species of this genus besides Homo sapiens.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit la chose suivante, l'Homo sapiens a gardé un secret encore plus perturbant, parce que non seulement avons-nous une quantité innombrable de cousins peu civilisés, il fut un temps où nous avions également beaucoup de frères et de sœurs. On se disait que nous étions les seuls humains, parce qu'effectivement, au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a été la seule espèce humaine dans les parages, mais le sens réel du mot humain, c'est un animal qui appartient au genre Homo. Et il y avait bien d'autres espèces de ce genre, à part les Homo sapiens.
Merci Robert pour cette traduction magnifique. Alors, Neil, à votre tour de résumer brièvement les brèves raisons qui vous poussent à choisir cette brève histoire.
J'ai lu pas mal de livres et c'est le seul livre qui m'a vraiment éclaté quand je l'ai lu. Je m'explique. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir d'où nous venions et je me rends compte même maintenant que notre espèce est minuscule depuis que j'ai lu ce bouquin. Voilà, c'est la raison du choix.
Neil Hannon, pour le film, on passe d'Israël aux États-Unis et on fait un bond de 50 ans en arrière pour revoir La Garçonnière, un film de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine, sorti en 1960. Charline, n'ayons pas peur des superlatifs, il s'agit d'un chef-d'œuvre.
Absolument, Antoine. La Garçonnière, c'est l'appartement du gentil Sissy Baxter qui laisse ses patrons y emmener leurs petites amies. Un jour, le chef du personnel le convoque parce qu'il sait tout et il demande lui aussi de profiter de la clé. Baxter obtient à ce moment-là une promotion, mais ce qu'il ignore, c'est que le chef du personnel en question emmène dans son appartement la femme dont il est amoureux.
I very often stay on at the office and work for an extra hour or two until it's all right for me to go home. You see, I have this little problem with my apartment.
I promised the guy I'd be out of here by 8 o'clock positively.
Whose apartment is this anyway?
What's the difference? Some schnook that works in the office.
I can't always get in when I want to.
Neil Hannon, vous êtes d'accord avec moi, chef-d'œuvre ?
Absolutely, I agree with you.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, Antoine.
It's gorgeous,
je vais vous dire, c'est un film magnifique, dont le rythme est absolument impeccable. Chaque plan est magnifique. Le jeu des acteurs est parfait aussi. Et c'est un film très drôle et très émouvant en même temps. Le juste équilibre.
Très bien. Ça vous plaît aussi, Charline ?
Beaucoup, Antoine.
C'est important. Alors, pour ce qui est de la série, vous avez choisi The Great British Bake Off. Alors, c'est pas une série à proprement parler, mais plutôt une compétition de pâtissiers en Angleterre. Charline, vous qui aimez tant les gâteaux et me rouler dans la farine, racontez-nous.
Écoutez, tout est dans le titre. Des gens se battent pour savoir qui fait les meilleurs gâteaux. Et dans cette bande-annonce, ce sont eux qui chantent les gâteaux, pas les cuistots amateurs.
Set your timers. The Great British Bake Off is back. Coming soon. On Channel 4.
Alors en France, l'adaptation s'appelle Le meilleur pâtissier, étrangement, mais expliquez-nous ce choix gourmand et croquant, Neil Hannon.
I can't cook.
Parce que moi-même, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas faire de gâteaux. En fait, ce n'est pas tellement la cuisine qui m'intéresse tant que ça. Et je n'aime pas les choses de télé-réalité, mais cette émission, comment vous dire, c'est un mélange de fantasmes, de plaisir. On peut se laisser emporter. Par opposition à d'autres shows de télé-réalité où les gens essaient de s'entretuer, ici, on essaie de s'entraider, au contraire, d'être gentils les uns avec les autres. Et moi, j'aime bien les voir, ces pâtissiers construire ces pièces montées absolument époustouflantes ou bien se planter complètement. Ça, c'est également très amusant. Et tout le monde s'en fiche un peu. C'est très drôle, c'est très simple.
Est-ce que je dois en déduire que vous préférez les gâteaux à la fiction?
My favorite is fictional cakes.
Non, c'est les gâteaux de fiction, c'est ça que je préfère.
Bien, terminons cette pop liste avec votre chanson culte, Neil Hannon. Et cette chanson, c'est celle-ci. Squeeze up the Junction, c'était en 79, c'est extrait de l'album Cool for Cats et vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Je suis un grand grand fan de Squeeze. Avez-vous des nouvelles d'ailleurs de Difford et Tilbrook? Que deviennent-ils ces deux-là?
Well, I can tell you that,
tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un d'entre eux a joué sur un de mes albums. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, quand il a dit oui, j'en croyais pas mes oreilles, mais il est venu, et puis bon, c'était génial. C'est quand même génial que ses propres héros musicaux fassent partie de leurs albums. Ou bien c'est peut-être un trip d'ego, je ne sais pas où mettre la barre, mais en tout cas, c'était vraiment une bénédiction.
Et pourquoi aimez-vous tant Squeeze?
Je pense que c'est l'aspect narratif, le fait que chacune de leurs chansons raconte une histoire.
No problem with just sort of talking about really sort of
kitchen sink. Et il s'intéresse à des questions toutes bêtes, enfin vraiment le quotidien, qui devient glamour d'une certaine façon et dramatique en même temps.
Ouais. Parfait. Alors je résume Sapiens, The Apartment, enfin La Garçonnière, The Great British Bake Off et Squeeze. Je mets tous ces ingrédients dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
I very often stay on at the office and work for an extra hour. We are used to thinking about ourselves as the only humans.
Set your timers. When she dealt out the rations, the Great British Bake Off is back. Perhaps she said, coming soon. I may be.
On Channel 4.
Whose apartment is this anyway?
What's the difference? Some schnook that works in the office.
Eh ben, ça nous fait un bon petit clafoutis de pop culture, Sani Lannon, non?
Yes. That's the stuff of my
nightmares. Oui, c'est exactement ce que je retrouve dans tous mes pires cauchemars.
Bien, Neil Hannon de Divine Comedy est dans Pop Pop Pop. Et avant de continuer à l'écouter parler, on va l'écouter chanter avec Q Jumper, cet extrait du nouvel album Office Politics.
Thank you.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Et Charlene Roux. Neil Hannon, leader charismatique de Divine Comedy, est notre invité aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Alors Valérie Lemercier, France Inter et Interview sont les premières occurrences qui tombent quand on tape votre nom sur Google, Neil Hannon. Et ça tombe bien car nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, je sais que vous n'êtes bon en interview que lorsque vous avez eu votre dose d'expresso. Vous en êtes à combien de tasses / litres au moment où je vous parle là?
Enfin, il y avait deux tasses dans une tasse, donc vous faites le calcul, ça fait trois en tout.
Ok, donc vous êtes à peu près à niveau.
It's not enough. Can I have another one, please?
Est-ce que je peux en avoir un autre, s'il vous plaît? Il faut que je devienne plus charismatique encore. Le café va aider.
D'accord, s'il vous plaît, quelques litres de café au régime. Merci. Alors allons-y. Office Politics, c'est votre 12e album, le 12e album de ce groupe dont vous êtes l'âme, Neil, et que vous avez fondé en 1989. 30 années durant lesquelles vous avez pu donner libre cours à votre fibre francophile en collaborant avec moult artistes tels que Valérie Lemercier, donc, ou Charlotte Gainsbourg, pour ne citer que des femmes, ça change un peu. Comme vous avez truffé vos chansons de référence à notre beau pays, pourquoi cette francophilie?
I don't know.
En fait, je ne sais pas.
No.
Si, je sais.
I grew up with, French art house.
J'ai grandi avec des films français d'art et essai.
Gainsbourg,
Jacques Brel.
I know he's Belgian.
Ah, il est belge, c'est vrai, Brel. Bon, enfin.
And I don't know. There is a sort of caricature
Disons
version of France.
Disons qu'il y a cette version caricaturale de la France dans la culture britannique
et
irlandaise. Et ça me plaît aussi, le côté un peu caricatural. Mais en me rendant en France, j'ai vu que ces clichés étaient tout à fait exacts. Les Français aiment bien s'asseoir dans les cafés, à boire des cafés, manger des croissants. Et je parle beaucoup de choses très philosophiques. À propos, merci pour le café qui vient d'arriver.
En régie, absolument.
Ce nouvel album s'appelle Office Politics, la vie de bureau, c'est un peu votre dystopie à vous, parce que vous ne l'avez jamais vraiment fréquenté.
How dare you?
Osez-vous dire ça, mais si.
No, I've never had a
non,
proper job.
Bon, j'ai jamais eu de.
C'est pas ce que je voulais dire.
Le normal, disons.
But I've watched. I live in the same world as everybody else.
Je vis dans le même monde que tout le monde. Je sais. Je regarde la télé. Je lis les journaux comme tout le monde. Je vis sur la même planète. Mais ce que je me dis, c'est que ce que je fais ne constitue pas, si vous voulez, la version idéalisée de la vie de bureau. Mais les aspects un peu caricaturaux de la chose. Peut-être dystopique, comme vous le dites, cette juxtaposition de réalité et de fiction. Moi, ça me convient très bien, mais c'est comme ça qu'on fait un album. Enfin, c'est que de la musique pop, il ne faut pas trop y penser.
Si on y voit un album qui s'interroge aussi sur la notion de péremption, des choses, des gens, est-ce qu'on doit consulter immédiatement ou est-ce qu'on est un peu dans le vrai?
Je veux dire, quand j'écris un album, disons que j'ai pas une idée dès le départ du produit fini, du produit final. Les chansons arrivent les unes après les autres et ça forme un tout. Il y a peut-être un thème fédérateur qui réunit ces chansons. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on est arrivé à ce résultat-là, mais effectivement, les questions de travail, de machines, de technologie, et disons l'angoisse pas tellement de l'avenir, mais l'angoisse du présent, en fait. C'est de ça que j'ai peur, en fait. Hein. C'est un peu dingue.
Office Politics, le 12e album de Divine Comedy, donc c'est un album qui regroupe 16 chansons qui vous ont demandé des années, dites-vous, de torture mentale, d'enregistrement, de réenregistrement, d'arrangement, de réarrangement. Vous aimez souffrir ou vous le faites pour nous faire plaisir?
It's a kind of a masochistic pleasure.
Il y a un côté masochiste, je le reconnais, mais disons que c'est la façon d'éviter de faire du vrai travail.
Mais
j'adore faire des albums, bien sûr. Et un double album, c'est encore mieux. C'est encore mieux.
Vous dites d'ailleurs, les nouvelles technologies ont l'avantage de réparer les erreurs. Avant, on se débrouillait juste pour que ce soit bien du premier coup. Est-ce qu'on peut aussi se dire que la méthode explique le sujet, soit la lutte contre les machines?
Yes, I understand the the paradox.
Oui, et il y a comme une espèce de paradoxe, n'est-ce pas? Parce que tout ce que je critique dans mon album, eh bien, je m'en sers justement pour faire l'album. Mais j'aime bien avoir recours au synthé analogique d'hier, justement, pour représenter cette autre période. C'est un peu contre-intuitif. Et j'aime bien les anciens synthés. D'ailleurs, cet album m'a donné la possibilité, justement, d'utiliser ces instruments un petit peu désuets ou des harpes et autres instruments. Et mes fans seront peut-être un petit peu perturbés par cet album, et je leur prie de lui donner une chance, d'écouter plusieurs fois avant de décider que c'est de la merde.
Neil Lennon, vous êtes effrayé par les machines parce qu'en fait, vous partagez une relation très particulière avec elles. Elles se cassent dès que vous les approchez. Enfin, pas les machines à café, j'espère.
Et je ne parle pas que des ordinateurs ou des téléphones portables, même les aspirateurs, le moindre appareil, les imprimantes, je ne sais pas. Alors, les imprimantes, surtout, je n'ai jamais compris. J'ai jamais eu une imprimante qui a tenu plus de 8 mois. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être que c'est moi, effectivement. C'est peut-être un complot, une conspiration pour nous obliger à acheter un or incalculable d'imprimantes, les renouveler tout le temps.
Mais d'ailleurs, on peut aussi entendre sur l'album que vous êtes phobique du PowerPoint. Est-ce qu'il y a d'autres compétences informatiques dont on ne trouve pas la maîtrise sur votre CV?
J'arriverais même pas à l'énumérer. Et ce serait bien de pouvoir retourner à l'écriture ordinaire des lettres sans se servir d'ordinateur. Pourquoi? Quel était le problème? C'était quand même bien de pouvoir aller chez quelqu'un, prendre son téléphone. Je sais pas, c'était une vie beaucoup plus détendue il y a une trentaine d'années avant que l'informatique ne s'en mêle. Je sais pas si vous vous rappelez quand il fallait prendre rendez-vous avec quelqu'un. Alors, on l'attendait au coin d'une rue, là, on avait prévu de prendre rendez-vous. Alors, il pouvait se pointer avec 40 minutes de retard. Bon, d'accord. Ou peut-être pas. Mais on se disait, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas venus, ils vous ont planté. Mais bon, la vie était plus facile à l'époque.
Je vous propose de
se débarrasser de ces téléphones portables, la vie sera bien meilleure.
Alors c'est aussi un album Office Politics qui sonne comme la somme de vos différentes approches de la pop depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous diriez que c'est l'album de la maturité, comme dirait Charlene Rowe?
It's a bit late to be coming of
age. De la maturité, c'est un peu tard. J'ai 40 ans maintenant, je sais pas.
I think it's another strange development.
C'est une évolution un petit peu bizarre qui s'inscrit dans notre parcours.
Office Politics, c'est un constat de notre monde actuel et de son absurdité. Alors, petit 1, où allons-nous? Petit 2, pourquoi ne pas avoir fait ce constat sous forme de tweet, genre « The world sucks »
Because I don't know how to tweet.
Ah, parce que je ne sais pas me servir des tweets. C'est pour ça.
Graham
Lennon, celui qui a écrit Five of Ten, quand toute cette histoire de tweet a démarré, il m'a dit, c'est génial, on peut dire des tas de petites choses marrantes en quelques caractères. Et ce que vous venez de dire, vous devriez le tweeter. Et je lui ai dit, mais je viens de vous dire quelque chose à vous, je ne veux pas le dire au monde entier. C'est dingue.
Et alors, vous n'aimez pas non plus les algorithmes de recommandation. Comme je suis française, je suis donc sadique. J'ai quand même cherché ce qui était recommandé si on aime votre album Office Politics. Et la réponse est donc Richard Hawley, Father, et Morrissey, California Sun. Est-ce que vous avez un avis, et vous, qu'est-ce que vous auriez recommandé?
C'est vrai, c'est bizarre, c'est le genre de choses. Si vous aimez Neil Lennon, vous aimez peut-être Take That, par exemple. Ça me rassure un peu, parce que cela veut dire que la technologie ne comprend pas ce que je fais pour vous recommander des choses très différentes. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à tromper le système et la machine.
Vous l'avez à ce point trompé que vous vivez à la campagne entouré de chèvres et de cochons. C'est votre manière de résister à l'absurdité du monde actuel?
Pour être franc, je vais vous dire que Cathy, ma compagne, elle récupère toutes sortes d'animaux en détresse et je les adopte. Alors je vois les chèvres de la fenêtre, je leur fais bonjour. Ce sont de très belles bêtes, j'aime bien leur compagnie, mais je m'en occupe pas vraiment. Par contre, moi je m'en tiens aux chiens à l'intérieur de la maison.
Est-ce que vous faites écouter votre musique à vos animaux?
No, they hate it.
En fait, non, ils la détestent.
Molly,
qui est
dog with one ear up, one ear down,
and une chienne qui a une oreille en haut, une oreille en bas. Quand je lui passe la musique, elle stresse complètement quand elle entend la musique, quand elle entend chanteur. Elle fait des bruits comme ça.
Translate that.
Oui, on va traduire. Version française.
Begs me
et
to stop.
Elle me supplie d'arrêter. Voilà, voilà.
Maybe dogs are right.
Peut-être
about
que les chiens
music.
Ont raison. Hein, ils ont le juste goût de la musique.
Dans I'm a Stranger Here, la chanson que vous allez interpréter tout à l'heure sur la scène de Pop Pop Pop, vous dites que vous êtes devenu différent. La télé, la presse, tout est devenu différent. La télé, la presse, la pop. Vous la trouvez comment, la pop contemporaine?
I refuse to answer that
question. Je refuse de répondre à cette question parce que cela pourrait se retourner contre moi.
Très bien.
Je alors, en présence de mon avocat.
There are some
il y a des éléments, disons, intéressants dans la musique pop contemporaine, mais dans l'ensemble, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis à ce point déconnecté que je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ne sais pas. Cette intensité des voix qui est telle que tout le monde chante la même chose, je ne sais pas. Tout est homogénéisé. Ça tue la pop musique. Il faudrait qu'on s'arrête de faire ça.
Et dans le titre Psychological Evaluation, vous êtes donc le mâle caucasien qui répond aux questions façon entretien d'embauche. Et à la question des regrets, que répondez-vous?
Dans la chanson, je dis
I should have learned French.
J'aurais dû apprendre le français. Voilà. Mon regret, c'est de ne pas connaître le français.
Yeah, I stand by that.
Et je persiste et signe. J'ai essayé plusieurs reprises.
But obviously, I'm just
mais
not a linguist.
De toute évidence, je ne suis pas un linguiste. Et toutes mes excuses sincères à la nation française.
Rien, pas un mot.
Well, a few words,
ah si, si, un mot ou deux, mais pas suffisamment pour répondre à vos questions tout à fait intéressantes du reste.
Neil Lennon, vous êtes un artisan de la pop culture, vous construisez vos chansons avec des multitudes de sons différents, une technique digne d'un tableau de Klimt, hein, dont la multitude de détails finit par faire l'œuvre. Artisan de la pop culture, à défaut de dandy, est-ce que ça vous convient?
Yeah, I like that.
Ah, j'aime bien cette description. Artisan, merci beaucoup, merci.
Keep talking.
Une nouvelle couverture pour le Melody Maker, peut-être.
Bien, on l'a compris, Neil, vous savez faire plein de choses, vous vivez au milieu d'animaux, vous arrangez, vous écrivez, vous chantez, enfin vous avez une vie absolument extraordinaire, mais est-ce que vous savez faire ça?
Je vais essayer.
Non.
Oh non. Bah, non, il était très intéressant celui-là. Ouais.
Très mat. Souffler un peu.
Ma mère le faisait parfaitement, mais moi, j'ai jamais vraiment réussi à le faire.
Non, mais ce pop-là a un son très, très intéressant. Une consistance.
It was a bit flatulent.
Ouais, ça ressemblait plutôt à une flatulence.
Bien. Enfin, de toute façon, c'est juste pour lancer les pop news.
Et le tweet du jour, c'est à lui qu'on le doit. C'est un Lenny Kravitz bien triste qui a publié le message suivant, ouvrez les guillemets, « Perdu cette paire de lunettes après mon show à LA, elles ont une grande valeur sentimentale, elles sont vintage et appartenaient à un membre de ma famille, j'espère les retrouver et ne poserai aucune question ». Fin de citation. Sous le tweet, deux photos des lunettes en question et même qu'il a créé une adresse pour l'occasion, si vous les avez vues, n'hésitez pas, kravitzglasses@gmail.com.
Ah, c'est trop bête, je viens juste de les écraser. Vous vous souvenez de ce titre de 89, Head On, de Jesus and Mary Chain? La reprise du jour est donc cette même chanson avec à la guitare Elliot Easton des Cars et au chant et au reste David Hasselhoff. Oui, oui, celui qui parle aux voitures et fréquente des filles en maillot de bain rouge qui courent au ralenti sur la plage. Curiosité à retrouver sur Open Your Eyes, l'album de David Hasselhoff qui sort aujourd'hui.
Oh, ne nous mentons pas, nous l'attendions tous. Oui, vous aussi Neil, vous aussi Antoine. La nouvelle bande-annonce de La Reine des Neiges de Haters Gonna Hate, mais j'assume, c'est très beau et ça fait très envie.
Que je ferais sans toi?
Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non?
Pas plus que d'habitude.
J'entends une voix.
Une voix? Comment ça?
Je vais m'envoler!
Non, je suis là!
Arendelle n'est plus en sécurité.
Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas.
Je viens avec toi.
Anna, non.
Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvée de mon ex-fiancé. Alors, je t'accompagne, c'est tout.
Et il faudra attendre le 20 novembre et la sortie de cette Reine des Neiges 2 pour être à nouveau libérée, délivrée.
France Inter. Popopo. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
La Reine des Neiges.
Mais oui, je serai toujours là pour toi, Charline.
Neil Hannon, on parle de pop.
Fais flipper cette Reine des Neiges.
Rock, de glam et de glam rock avec Christophe Comte dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, bah tiens, Victoria, cet extrait de l'album des Kings, Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, qui ressort en coffret collector à l'occasion du 50e anniversaire. Victoria, c'est signé des Kings et cet extrait de l'album collector Arthur, The Decline and Fall of the British Empire qui fête son 50e anniversaire. L'édition à ne pas rater. Voilà, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Neil Hannon et vient de nous rejoindre un invité qui compte, C-O-N-T-E, dans la pop culture. Bonjour Christophe Comte.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Bonjour Christophe.
Accueilli par les Kings, dont vous parlez dans votre doc consacré au glam rock, c'est chic, non?
C'est chic d'être accueilli par les Kings, ouais. C'est ultra chic d'être à côté de Neil Hannon, qui est un de mes héros. Et effectivement, les Kings ont un petit peu anticipé le glam rock à l'époque de Lola, en transgressant un peu la bonne morale anglaise, puisque c'est l'histoire quand même d'un garçon qui rentre dans un club de Soho et qui rencontre un transsexuel. Ouais. À l'époque, alors la chanson a été censurée, mais pas pour ça, parce qu'il citait Coca-Cola dans la chanson. Mmh. La BBC a pas tellement au départ matché sur l'idée, mais après coup, quand même, il y a eu quelques grincements dedans. On va dire.
Ce qui est chic surtout, c'est d'avoir eu Neil Hannon en première partie. Aujourd'hui.
Ah bah oui, non, c'est pour moi.
Oui, il a ouvert pour vous en quelque sorte.
C'est le plus beau des cadeaux.
Neil Hannon, quel effet ça vous fait d'être entouré d'adorateurs?
Brilliant.
C'est génial. J'adore.
Vous voulez lancer une secte?
It's not a cult that I would want to be a part of.
Peut-être pas. En tout cas, c'est pas une secte dont je voudrais faire partie pour paraphraser Woody Allen ou Groucho Marx.
Groucho Marx. Alors, Glam Rock, c'est diffusé ce soir à 22h30 sur Arte. C'est une odyssée électrisante en paillettes et talons compensés au cœur d'un mouvement émancipateur. Tour d'horizon des sujets abordés dans cette bande-annonce.
T-Rex et David Bowie. Queen et Roxy Music. The Kinks. Alice Cooper et les autres. Ils ont joyeusement mélangé les genres. Filles et garçons, cosmique et cosmétique, rock et glamour.
Alors, rock et glamour, d'accord, mais de là à venir dans ce studio en talons compensés, c'est pour oui. Le côté immersif, Christophe Comte.
Exactement, je ne me dépasse plus que comme ça maintenant.
Ça vous va hyper bien.
Bah oui, dans le métro, c'est un peu compliqué. Mais...
Au départ du documentaire, un constat, celui du rock devenu mortel avec les disparitions de certaines icônes, mortel et mortellement ennuyeux, dites-vous. Le glam rock serait donc aussi né d'un ras-le-bol de l'esprit de sérieux qui régnait à l'époque dans la musique.
Bah, il suffit de voir les groupes qui commençaient à émerger à ce moment-là. On est en 71 à peu près, en 70 à la fin des Beatles, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb, il y a eu Altamont, il y a eu tout ça, il y a des tas de rockstars qui ont disparu. Et d'un coup, on a l'impression que la décennie qui va s'ouvrir va être entièrement focalisée autour de groupes qui vont faire des solos de guitare d'une demi-heure. Mmh. Et ça semble quand même un petit peu dur pour le rock d'arriver à un tel degré de sérieux et surtout de virtuosité, alors que l'essence même du rock était quelque chose d'improvisé, de très spontané.
Ouais.
Et le glam rock, c'est ce retour-là. C'est des types un peu surgis de nulle part, même si certains d'entre eux avaient commencé avec des carrières déjà entamées, qui d'un coup se remettent à zéro, se rebootent complètement. C'est le cas de Mark Bolan, qui est un chanteur de folk, et d'un coup qui se remet, qui prend sa guitare sur une prise électrique, et d'un coup ça devient une sorte de guitar hero. Et Bowie, évidemment, et tous ces gens-là, avec après des groupes un peu plus... kitsch, on va dire, vont remettre un goût de l'esprit de fête en Angleterre à un moment où on n'y croyait plus.
Mais attendez, Christophe Comte, parce que là, nous parlons de glam rock, mais... Pour vous, c'est quoi le glam rock, Christophe Comte ?
Eh bien, le glam rock, justement, c'est, c'est le retour à l'essence primitive du rock, mais transposée à une époque... qui est celle de la télévision, l'essor de la télévision, où on peut se maquiller, exacerber une sorte d'identité alternative à ce qu'on a, surtout en Angleterre, où quand même ce genre de choses, même si les gens se travestissaient, mais c'était plus pour rigoler, là ça devient assez sérieux, les gens arrivent à la télé, maquillés.
Oui, parce que vous y racontez d'ailleurs le rôle prépondérant de l'émission Top of the Pops, dans l'avènement de certaines carrières, vous y montrez ce que vous carbodatez comme peut-être la première apparition du glam à la télé, celle de Mark Bolan avec T-Rex pour Galiland, avec sur les joues une petite coquetterie qui a tout changé.
Des paillettes sur les joues. Et c'est... En plus, c'est vraiment tout ça s'improvise, parce que je crois que c'est sa copine ou son attaché de presse qui, cinq minutes avant d'entrer, lui dit « Tiens, mets des paillettes ». Et d'un coup, ça provoque quelque chose en Angleterre, parce que les gens regardent ça en famille. Et d'un coup, on a des parents qui sont nés avant la guerre et qui se disent « Qu'est-ce que c'est que ce type qui arrive avec des paillettes ?» C'est un truc qui n'est pas du tout normal. Mmh. Et ensuite, un an après, même pas, il y a Bowie qui arrive sur scène et qui fait Starman et qui là prend par le coup Mick Ronson, son guitariste. Et ça, c'est un deuxième geste très fort, parce que déjà ils sont habillés quand même, faut les voir dans la vidéo. Et en plus il y a un rapprochement physique qui à l'époque n'est pas du tout dans les mœurs, et ça, tout ça fait avancer quand même beaucoup les choses en Angleterre, sans compter que les deux personnages du glam rock en dehors de Bowie et Bolan qui vont émerger à ce moment-là, c'est Elton John et Freddie Mercury. Donc quand même,
c'est ça, parce que ce qu'on découvre, c'est qu'en fait c'est une palette très large, le glam rock. Il y a à la fois la musique un peu bourrin à la Slade et puis Roxy Music et puis Bowie.
C'est deux genres de musique qui sont un peu frontaliers mais en même temps assez opposés, avec une approche très dandy justement de Roxy Music, de Bowie. Et puis des types qui sont sortis du pub et qui,
Des drôles de coupe de coiffure.
Qui se mettent aussi des paillettes et du maquillage parce qu'il faut faire pareil. Ouais. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que ces deux choses, Sweet ou Slade, chantent des chansons quand même assez basiques. Ouais. Et Bowie et Roxy Music, des choses très complexes. Mais les kids qui regardent ça prennent tout ça d'un bloc. C'est-à-dire qu'ils adorent autant les uns que les autres. Mm-hmm. Et ce sont avant tout des artistes qui ont fait des tubes énormes. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même un des rares mouvements qui a eu autant de tubes en si peu de temps.
Et ce qui fait assez...
Neil Hannon, vous avez eu votre période glam, vous talons compensés, paillettes
coupe de cheveux hasardeuse.
Well, I have been known to dress up a little
par le passé, je me suis effectivement un petit peu maquillé. J'ai une question pour Christophe. Comment se fait-il que l'Angleterre avait un tel talent pour le glam que les États-Unis n'ont pas pu imiter?
Parce que je pense que c'est très anglais comme musique, finalement. C'est vraiment la suite de la pop anglaise des Beatles, des Stones, mais avec une perspective un petit peu plus festive. Et puis probablement qu'aux États-Unis, il y a eu des glam rockers ou des glitter rockers peut-être un petit peu plus sulfureux, parce que aussi bien les New York Dolls, mais aussi Lou Reed et Iggy Pop, à ce moment-là, quand Bowie commence un petit peu à les prendre sous sa coupe, deviennent finalement des participants au glam rock dans son sa grandeur. Et aussi des groupes, alors là, pour le coup, assez intéressants, des chanteurs et des chanteuses qui, prenant le pendant inverse des garçons, s'habillent en garçons, pour le coup, Suzy Quatro ou les Runaways arrivent en cuir, et ça donne un autre genre de glam rock, un petit peu plus rentre-dedans, et ça, on le voit aussi dans le film, mais c'est une sorte aussi de dérivation des États-Unis, de reprendre un peu la main sur un rock'n'roll pareil qui est très basique, très... Voilà. Et ça, c'est un aspect aussi qui m'a pas mal intéressé.
Mais ce qui est assez fascinant aussi à observer dans le film, c'est qu'au départ du mouvement, il n'y a pas vraiment de revendication, alors qu'en Angleterre, c'est pas la fête, si ce n'est celle de la fluidité de genre, d'une forme de sexualité joyeuse. Et pourtant, le glam rock a quand même fini par incarner quelque chose d'éminemment politique, qui a encore des résonances.
Alors, oui et non, parce que c'est vrai que dans les textes, en tout cas, il n'y a absolument pas de référence à ça. Mais en revanche, politique dans le sens où les questions d'identité et de genre se posent encore aujourd'hui, en 2019, de manière très, très, très importante. Le glam rock a peut-être anticipé ça. Et il a anticipé une autre chose, c'est l'esthétique en général, et ça on le montre à la fin, notamment Bowie, qui a inspiré des créateurs de mode, qui a inspiré évidemment tout un tas de choses. Mais cette époque, effectivement, peut-être a été prise un peu à la légère, y compris en Angleterre, parce que c'était de la télévision, parce que c'était des artistes qui avaient l'air un peu kitsch, il faut bien le dire. Mais avec le recul, déjà, il y a quelque chose de très important que j'ai remarqué. Enfin, j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, en 72, quand Bowie passe à la télé, des gens comme Marc Almond, des gens comme Jimmy Somerville ou Boy George ont 10, 11 ans. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ont vu cette image, et peut-être que ça a conditionné une grande partie de ce qu'a été leur vie future. Pas seulement musicalement, mais aussi leur identité, parce que ça a libéré probablement chez certains d'entre eux quelque chose qui était sans doute très enfoui.
Neil Annon, ça a libéré quelque chose en vous de très enfoui, le glam rock?
I was born in 1970.
Moi, je suis né en 1970. J'ai que des souvenirs très, très vagues de ces paillettes et de Slade et tout cela. Mais franchement, c'est venu après, dans mon cas, la synth pop, la new wave. Et là, par contre, j'étais complètement époustouflé par ce type de pop. Mais David Bowie avec ce costume de Pierrot, juste costumé comme ça, juste. Jusqu'à la poitrine, ça m'a vraiment marqué l'esprit, et la puissance de cette image a probablement déterminé et modifié toute l'imagerie pop. Signalons pour finir que glam rock, grandeur et décadence, hein, c'est une aventure qui est racontée par notre consoeur Rebecca Manzoni. Alors plutôt quoi, Rebecca, glam rock,
Elle est très glam en tout cas. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle, parce que évidemment pour raconter cette histoire, alors, au départ avec ma voix, ça allait pas du tout. Il faut quelqu'un qui incarne vraiment ça. Et puis elle est très rock.
Car je rappelle que vous avez un peu la voix de Bernie Bourvoisin.
Oui, vous me le dites
à
chaque
fois.
Vous
n'êtes pas Bernie Bourvoisin.
J'espère pas. Bon, mais...
Merci Christophe. Merci. C'est le Doc qui passe sur Arte ce soir à quelle heure?
22h30.
À 22h30, glam rock, grandeur et décadence. Et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Alors je l'annonçais en début d'émission, c'est l'heure du live de Divine Comedy sur la scène mythique de Pop-Pop-Pop. Neil Hannon, vous êtes prêt?
Are you ready for this? Oh yeah, ready as anything.
Alors juste après mon pop, c'est à vous. Attention.
Excuse me, madam, would you mind sparing a moment of your time? I wandered off the beaten track.
Now I can't find my way back. Excuse me, sir, may I intrude? I hope you do not think me rude. I went out for a loaf of bread. Now everything I love is dead. I'm a stranger here. I'm a stranger here. You can tell from my voice and my clothing of choice, I'm a stranger here. I'm a stowaway from the olden days, and I'll play you a song from the place I come from, if you like. When I was young, they said to me, this way towards modernity. Now when they ask where I come from, I say, the past, and wander on.
Stranger here, Neil Hannon sur la scène de Pop Pop Pop. Vous êtes peut-être un stranger ici, mais vous êtes toujours le bienvenu dans notre studio. Absolument. Office Politics, le 12e album de The Divine Comedy est disponible et il est plus que recommandé, vous l'avez compris, par Pop Pop Pop. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert à Paris le 28 octobre prochain, mais c'est complet. Alors rendez-vous le 20 octobre à Roubaix, le 29 à Nantes, le 30 à Brest et le 1er novembre à Sénon. C'est oui. Merci Christophe Comte. Glamrock, c'est diffusé ce soir sur Arte à 22h30 et sur arte.tv. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Florent Beauvallet et Nicolas Slimani, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, à nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop.
Antisocial, perds ton sang-froid.
Christophe Comte. Mais non, Bernie Bonvoisin vient truster le studio. Mais avant lundi, si vous avez aimé cette émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos stage diving sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Oh, suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.
Il va encore falloir changer la hanche, vous croyez que ça se trouve si facilement que ça?
Fait mal.